Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg pour notre rendez-vous cette semaine. Notre invité est quelqu'un que vous connaissez, il s'agit de Jean-Claude Bourret. Bonjour Jean-Claude Bourret.
Bonjour Georges Krohn et bonjour à tous les auditeurs de Judaïka.
Merci beaucoup. Alors, on vous connaît parce que vous avez présenté pendant des années le journal du week-end sur TF1 et vous êtes également le présentateur de journaux sur La 5. La 5 dont on va parler. Question comme ça, brute et sans appoint, vous faites quoi sur la télévision? Est-ce que ça vous manque?
Ah, pas du tout. Pas du tout, d'autant plus qu'il ne vous a pas échappé, mon cher Jean, que la télévision avait beaucoup évolué au cours des 20 ou 25 dernières années et que maintenant, chacun est capable de faire sa radio ou sa télévision avec son portable.
Et ça vous tente pas?
Non, ça ne me tente pas, mais je suis très sollicité par des quantités d'animateurs comme Jean Chécroun, que vous connaissez bien, je crois, qui disent, voilà, j'ai une radio, j'ai une télé, j'ai une webcam, etc., du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse. Ben, je trouve ça formidable.
Alors, vous avez écrit avec Béange Adanigo, La 5, l'histoire secrète, avec évidemment des révélations choc sur cette histoire de La 5 aux éditions Qui, très Daniel. La 5 a été créée exactement le 20 février en 1986 et est mort le 12 avril 92, 6 ans. Ça a été pour vous une bonne expérience?
Ah, ça a été une expérience formidable parce que c'était une chaîne de télévision qui n'existait pas avant, qui a donc été créée en totalité en l'espace de quelques 18 mois. Et nous, on est arrivés alors que la rédaction techniquement avait été terminée par les équipes de Berlusconi. On avait une rédaction ultra moderne, on avait chacun nos ordinateurs, ce qui fait rire tout le monde maintenant, parce qu'on a un ordinateur collé à l'oreille en permanence, ou devant les yeux avec les smartphones, mais à l'époque c'était révolutionnaire, on était en 1987, c'était il y a plus de 30 ans. Et on avait accès absolument à toutes les merveilles du monde. On avait des systèmes de diffusion de l'image qui étaient révolutionnaires. Moi, je venais de la grande chaîne TF1, chaîne historique, sur laquelle j'avais même fait le passage du noir et blanc à la couleur en décembre 1975. C'est vous dire que j'ai vécu la vieille époque de la télé. Et puis, tout était automatique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la bande image qui était développée dans des bains chimiques et la bande son qui était enregistrée par un magnétophone. Et on synchronisait l'image et le son. Là, c'était évidemment des cassettes où tout était automatiquement synchronisé. Et c'était géré par un ordinateur avec un bras immense qui allait chercher parmi les milliers de cassettes qui étaient en stock, celles dont nous avions besoin.
Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, Jean-Claude Bourret, c'est que finalement, la création de La 5, c'est surtout, on va dire, politique. C'est François Mitterrand, à l'époque, qui voulait une chaîne. La gauche voulait cette chaîne et la droite vend debout. Comment on gère ça quand on est journaliste, sachant qu'il y a deux camps qui revendiquent la paternité de la chaîne?
Oui, c'était assez drôle parce que nous étions dans une période où la gauche qui était au pouvoir craignait de perdre le pouvoir à travers les élections qui arrivaient. Et donc, l'obsession de Mitterrand, c'était d'avoir une chaîne de télévision à lui. Alors, il lui fallait de l'argent, lui, il l'avait pas, le Parti Socialiste non plus. Donc, on lui avait dit, il y a un socialiste en Italie qui s'appelle Berlusconi, qui est milliardaire, et qui lui-même a créé une chaîne de télévision, la Cinque, et on peut vous mettre en contact avec lui, ce qui avait été fait. Et puis, c'est la droite qui a gagné les élections législatives. Et donc, ils ont été obligés, la droite et la gauche, de se partager le pouvoir. C'est-à-dire que Berlusconi, gauche, a mis le capital. Ersan, droite, a mis un peu d'argent également. Mais c'était lui qui était majoritaire pour prendre des décisions. Mmh. Et donc, moi, ancien rédacteur en chef de TF1, où je présentais les journaux du week-end, j'ai été face à Ersan et à Berlusconi en même temps, dans le même bureau.
Alors, dans votre le livre qui est assez bien documenté, on parle évidemment de l'histoire de la 5, mais aussi de tout le caractère, tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui est intéressant dans votre livre. Même les gens qui étaient en hibernation pendant cette période-là pourront, grâce à votre livre, revenir à ces histoires-là. La 5 est arrivée, donc vous l'avez dit, avec Berlusconi à sa tête. Et là, c'est le chéquier qui prend des zéros, si on peut dire. Il a ramené tous les grands animateurs, Sébastien, Sabatier, Zabel, etc.
Oui, vous avez raison de souligner que ça remet un peu en situation toute l'histoire de l'audiovisuel grâce au travail qui a été fait par Bérangère Danigo, mmh. Qui était d'ailleurs une téléspectatrice, comme son frère David, malheureusement mort il y a peu de temps, et qui a fait un travail tout à fait remarquable et qui a obtenu d'ailleurs sa carte de presse à travers la rédaction de l'association Défense de la 5. Et effectivement, Berlusconi, qui avait beaucoup d'argent mais qui n'avait personne, il n'y avait aucun animateur, etc., il est venu et il a fait son marché, comme il m'avait dit, je fais mon marché dans l'audiovisuel. Alors chaque homme a son prix. Donc il a fait venir tout ce que la télévision comptait à peu près à l'époque de grands animateurs d'émissions de variété, et il faisait le chèque. 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros par mois, etc. Il y allait franco. Et moi, je gagnais à l'époque 6 000 euros à peu près. J'ai fait le calcul avec le logiciel du ministère de l'Économie et des Finances. Je gagnais l'équivalent à peu près de 6 000 euros comme rédacteur en chef de TF1 et présentateur des journaux télévisés du week-end. Et il m'a proposé, avec Ersan, 12 000 euros, c'est-à-dire de doubler mon salaire, ouais, pour venir sur la 5. Alors j'ai réfléchi un peu, et quand, j'ai pas dit oui tout de suite, j'ai dit ça m'intéresse, moins d'ailleurs pour les 12 000 euros, que j'étais bien content d'avoir, bien sûr, que par le fait que il y avait une rédaction absolument neuve, absolument unitaire techniquement et ultra, ultra, ultra moderne. Et quand Bouygues, qui était mon vrai patron, puisque j'étais encore employé de TF1, a su que Berlusconi et Ersan me proposaient de venir sur la 5, il m'a tout de suite convoqué. Il avait un bureau dans la tour Montparnasse, je me souviens très bien à l'époque. Il m'a fait passer d'ailleurs devant Anne Sinclair, et j'étais un peu honteux de passer devant la belle et intelligente Anne Sinclair. Et il m'a fait rentrer, il m'a dit « voilà, vous restez évidemment sur TF1 ». Le présentateur, il a eu cette phrase qui a flatté un peu mon ego, évidemment. Il a dit « le présentateur le plus populaire doit rester sur la chaîne la plus populaire, et je vous propose 110 000 euros par mois ». Bon, j'ai fait la péréquation, et c'était des francs à l'époque. Plus une voiture de fonction, 7 jours sur 7 avec un chauffeur, plus une carte de crédit avec des frais illimités. Alors moi, qui suis un petit fils de paysan de la Lozère-Ardèche, évidemment, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout cet argent qui m'arrive dans le portefeuille ? Et j'ai dit non, et il a jamais compris. Mais à partir du moment où j'ai refusé ces 110 000 euros par mois, et puis la suite, ce qui était l'équivalent d'à peu près de 150 000 euros par mois, son regard sur moi a changé. Je pense que j'ai été dans sa vie le premier individu qui a refusé autant d'argent et qui a montré que l'argent n'était pas sa motivation.
À l'époque, dans une interview à un magazine, vous disiez « je suis allé sur la 5 parce que j'ai une totale liberté et que je voulais créer un journal à mon image et que TF1 n'était pas super d'accord quand vous avez proposé votre journal à vous ».
C'est tout à fait exact. Et quand j'ai été reçu en tête à tête par Ersan et par Berlusconi, je le raconte d'ailleurs dans le livre, et que j'ai dit, je mets une seule condition, c'est que jamais vous ne fassiez pression sur moi pour supprimer tel sujet, inviter tel homme politique, etc. Parce que, vous savez, j'ai 50 ans de carte de presse, même un peu plus, je sais comment ça se passe dans les rédactions. Alors, Ersan, qui était face à moi, assis dans son fauteuil de président, il était président d'un grand groupe de presse, il était propriétaire, entre autres, du Figaro, eh bien, pendant au moins 30 secondes, peut-être 40 secondes, il m'a regardé, sans dire un mot, dans les yeux, pour voir, pour essayer de savoir qui était ce type face à lui. Et j'ai soutenu son regard pendant 30 ou 40 secondes. Bon, je me souviens très bien, parce que vous savez, vous ne regardez pas les yeux dans les yeux pendant 30 ou 40 secondes un monument de la presse française sans que cela vous marque. Et puis il m'a dit, c'est d'accord. Et jamais il n'est intervenu dans mes journaux pendant les presque 5 ans qu'a duré cette expérience de la 5.
Jean-Claude Bourret et Bérangère Danigo, La 5, l'histoire secrète aux éditions Guy Trenadiel. En fait, il y a eu deux périodes à La 5. Il y a la période Ersan Berlusconi et la période de Lagardère Berlusconi. Entre les deux tandems, il y en a un qui vous sait plus que l'autre.
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y avait des pertes qui étaient importantes parce qu'on n'avait pas assez d'émetteurs. Donc n'ayant pas assez d'émetteurs, on n'avait pas assez de téléspectateurs. N'ayant pas assez de téléspectateurs,
pas de
la publicité n'était pas payée suffisamment cher pour subvenir, pour faire l'équilibre financier. Donc Lagardère, on lui a dit, vous prenez la majorité dans le capital. Il rêvait d'avoir une chaîne de télévision, je raconte pourquoi d'ailleurs dans le bouquin. Et mais vous, il y a une seule chose qu'on vous demande, vous virez Duel sur la 5 de Bourret. Ah. Parce qu'il ne supportait pas la démocratie en direct, la droite non plus. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit un ancien Premier ministre de Chirac. Il m'a dit, vous faisiez de la démocratie en direct tout ce dont la classe politique a horreur. C'est-à-dire que moi, dans mes émissions télévisées, à la fin d'une confrontation entre un type de gauche et un type de droite, je disais, voilà, lequel des deux vous a convaincu ? Et il y avait deux numéros de téléphone qui s'affichaient. Si vous votez pour Monsieur X du Parti Socialiste, eh bien, c'était le numéro. Si vous votez pour Monsieur Y du Front National, à l'époque, c'était le numéro. Et c'était très souvent la droite qui l'emportait. C'était ou le Front National, ou le FPR, etc.
Alors, Jean-Claude Bourret, ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, la chaîne La 5 était publicitée par ses téléspectateurs, et pourtant, elle a disparu. À votre avis, mis à part les problèmes d'émetteurs dont on a parlé tout à l'heure, il y aurait d'autres éléments qui vous semblent constructifs de cette perte de la chaîne ?
Oui, c'est une très bonne question, parce qu'il n'y a pas eu que les histoires d'émetteurs. Il y a eu la grande bataille des grands financiers, dont souvent les journalistes qui sont dans les grandes rédactions n'ont pas conscience. Ils ont une vision assez rudimentaire, assez monothéiste, j'allais dire, du fonctionnement de leur métier, et ils ne se rendent pas compte que par-delà les rédactions, il y a les grands capitaux qui sont là et qui achètent les journaux pour orienter le peuple dans le sens voulu.
C'est-à-dire que la 5 était dirigée par quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche et que donc elle avait la couleur de son propriétaire ?
Oui, c'est exactement ça.
D'accord. Donc vous dites que vous avez été poussé par Ersan à être un peu plus de droite que de gauche ?
Ben, c'est-à-dire que quand j'ai accepté de venir en 1987 sur la 5, qui était dirigée par Ersan et Berlusconi, donc un de droite, un de gauche, ça faisait un équilibre, je ne me suis pas engagé politiquement, puisque ils ne m'ont pas dit, écoutez, on vous engage à 12 000 euros par mois, mais vous n'invitez personne du Front National, ou vous n'invitez personne du Parti Socialiste, ou très peu, etc. Ils m'ont dit liberté totale. Et d'ailleurs, ça a marché très bien, puisque la seule émission sur laquelle il n'y avait aucun retour négatif du conseil d'administration de la 5, c'était la tranche midi 30, 13h30, celle que je dirigeais.
Quand je vous dis le nom, par exemple, de Yves Sabouret, qui était dernier président de la 5, c'est quelque chose qui vous passe mal ou plutôt bien?
Non, mais j'ai connu M. Sabouret, qui est un homme très bien élevé, qui est un homme très sympathique, que j'ai vu d'ailleurs à l'un des dîners du CRIF, où j'étais invité moi aussi. C'est un homme tout à fait délicieux, mais c'est un homme qui est un gestionnaire impitoyable. On l'appelait le smiling cobra, le cobra souriant, parce qu'il convoquait quelqu'un dont il n'avait plus besoin pour X ou Y raison, avec un grand sourire, avec beaucoup de spontanéité et de sympathie dans la façon dont il accueillait. Et donc, voilà. C'est pourquoi on l'appelait le Smiling Cobra.
À la fin de la 5, vous avez créé une association qui s'appelait les Amis de la 5, avec une petite controverse. Il y a quelques semaines, certains vous accusaient d'avoir donné les 30 000 euros dans votre poche, et ces choses démenties quelques jours après.
Oui, vous savez, c'est pas un hasard. C'est le fait des grands milliardaires qui étaient propriétaires de médias et qui pensaient que la 5 étant morte, ça y est, ils allaient pouvoir bénéficier de l'équivalent de 350 millions d'euros de publicité que la 5 prenait sur le marché publicitaire pour les répartir sur leur propre chaîne de télé. Et puis il y a un crétin, un idiot, une andouille qui s'appelait Jean-Claude Bourret et qui continuait le combat avec l'association de défense de la 5. Alors il y a eu plus de 2 millions de Français qui m'ont envoyé une lettre, sans le moindre argent d'ailleurs, disant « si vous émettez des actions pour créer une chaîne de télévision, je m'engage à acheter pour 100 euros, 200 euros, 1000 euros » d'action. Bon, très bien. Et puis, il y avait l'association de défense de la 5, où on payait une cotisation de 50 francs, ça doit être l'équivalent de 8 ou 10 euros d'aujourd'hui, par an, et qui a constitué un magot au départ, puisqu'il y avait sans doute environ deux mémoires, comme ça, parce que c'est il y a 33 ou 34 ans, il y avait l'équivalent d'à peu près d'un million d'euros sur le compte de l'association, qui a fonctionné pendant 3 ans, mais j'avais engagé 9 personnes, on louait évidemment du matériel, il fallait payer les avocats, les commissaires aux comptes, etc.
Ouais.
Et puis au bout de 3 ans, ça s'est arrêté, et il restait l'équivalent de 31 000 euros en 1994 sur le compte de l'association. Et évidemment, j'ai eu toute une campagne de presse, ils ont bourré, s'en met dans la poche. Et ce qui était drôle d'ailleurs, parce que quand on sait ce qui s'est réellement passé, c'était absolument impossible, puisqu'on avait le Minitel qui était les premiers ordinateurs de l'époque,
exactement.
Et tous les jours, je mettais combien d'argent on avait reçu, combien d'argent on avait dépensé et pour quelle destination. Et donc, il y a eu un procès d'ailleurs qui a été gagné parce que il y avait un ancien syndicaliste de la 5 qui m'aimait pas, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer, et qui m'avait accusé d'avoir volé l'argent de l'association, ce qui voulait rien dire parce que si j'avais volé l'argent de l'association, vous pensez bien que la justice m'aurait poursuivi. Il y a même pas eu le début du quart d'une enquête, d'un procès. Le gouvernement savait parfaitement que j'étais absolument inattaquable. D'ailleurs, il y a eu une vérification qui a été faite par 3 inspecteurs du ministère de l'économie et des finances à l'époque, et la femme qui dirigeait ces 2 collègues m'a dit « Écoutez, ça fait 28 ans que je fais des vérifications dans diverses entreprises, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi honnête et transparent », et elle me l'a mis dans le certificat. Et donc, il restait ces 31 000 euros qui n'ont pas bougé depuis
34 ans.
Plus de 30 ans.
Ouais.
Et le seul qui a mis un peu d'argent, c'est moi. Tous les 5 ans, je mettais l'équivalent de 50 euros parce que j'ai été le seul adhérent de l'association de défense de la 5 pendant 50 ans. Il restait 31 000 euros. J'ai dit, c'est idiot, les laisser mourir comme ça sur un compte. Et donc, j'ai décidé de les donner à l'association L'Ami de Pain, qui est une vieille association qui s'occupe des SDF depuis 140 ans, et je peux vous dire qu'ils étaient contents parce qu'il y a beaucoup de misère dans notre pays.
Jean-Claude Bourret, s'il fallait pousser les gens à acheter votre livre, qu'est-ce que vous diriez? Quel est votre argumentaire?
Oh, écoute, écoutez, moi je pousse personne à acheter mon livre.
Non, mais
c'est un livre qui est, c'est un livre qui, je pense, est intéressant parce que je raconte des quantités d'anecdotes secrètes. Par exemple, comment j'ai été viré du 20h parce que j'avais dit la vérité sur la grande manifestation en faveur de l'école libre. Vous savez que la gauche était contre tout ce qui était confessionnel. Alors, il y avait les écoles, évidemment, privées catholiques, entre autres. Donc, ils aimaient pas du tout ça, les socialistes. Et donc, moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour la démocratie. Mmh. Si la démocratie majoritairement dit il faut faire ça, je m'incline. Je suis pas un dictateur. Mais là, c'était pas le cas, c'était vraiment des manipulations sournoises du Parti Socialiste pour casser ceux qui défendaient l'école libre, où les juifs étaient concernés aussi, parce qu'il y avait des écoles libres juives. Et donc, parce que j'avais fait mon métier, et je raconte dans quelles circonstances, comment j'ai appelé à une demi-heure de l'antenne le ministre de l'Intérieur, M. Gaston Defferre, puisque l'AFP ne donnait aucune indication du nombre de manifestants à Paris, qui était le point culminant de toutes les manifestations en France qui avaient été très suivies. Il y avait eu 500 000 personnes à Versailles un ou deux mois avant. Et il m'avait dit, mais on ne donnera pas d'estimation. Mais j'ai dit, vous rendez compte, monsieur le ministre, que je vais être obligé de commencer le journal télévisé dans une demi-heure pour dire Paris a vécu aujourd'hui l'ultime manifestation en faveur de l'école libre. Il y a 2 millions de manifestants selon les organisateurs. Et pour la première fois, le ministère de l'Intérieur ne veut donner aucune estimation, ce qui va complètement crédibiliser le nombre donné par les organisateurs. Elle me dit, ah bon sang, on n'avait pas pensé à ça, je vous fais rappeler par ma directrice de la communication. Et voilà comment j'ai été viré, parce que Mitterrand regardait mon journal, et j'ai commencé le journal de 20h en disant, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la libération, avec plus de 800 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Et président Mitterrand, qui regardait mon journal, s'est tourné vers ses collaborateurs en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis évidemment, c'est retombé en cascade, c'est retombé sur mon directeur de l'information, Alain Danvers, qui avait été nommé là parce que son père était député socialiste, exact. Et qui m'a convoqué en disant « Mais qu'est-ce que tu as raconté ?» Il commençait à m'engueuler. Alors j'ai dit « Comment c'est, qu'est-ce que j'ai raconté ?»« Tu as dit 800 000 manifestants, c'est pas dans les dépêches !» J'ai dit « Oui, mais ce qui différencie un militant du Parti Socialiste comme toi, d'un modeste journaliste qui a pris son métier au centre de formation des journalistes, c'est que moi, je ne fais pas de militantisme. Moi, je suis ni à gauche, ni à droite. Moi, j'essaie de dire la vérité. » « Ouais, toujours tes grandes phrases, ce sont tes amis de droite qui t'ont renseigné. » Non, j'ai dit, ce sont tes amis de gauche. C'est M. Gaston Defferre lui-même. Ah bon, ah bon. Alors là, il a baissé notre ton, il m'a dit, ah bon, tu as eu Defferre. Mais je dis, oui, j'ai eu Defferre, et j'ai eu sa directrice de communication. Ah bon, bon, ben on réglera ça plus tard. Et là, j'ai vu que ils battaient en retraite. Mais ils m'ont viré du 20h. Et ils ont eu une idée géniale. Ils ont dit, comment on peut neutraliser Bourré? On peut rien lui reprocher. Si on le vire parce qu'il a dit la vérité, ça va pas être bon pour notre image. Ah ben, il y en a qui a dit, on a une idée, on va dire qu'on crée la première télévision du matin, on va mettre Bourré au matin. Et on m'a convoqué, on m'a dit, on a une idée formidable pour toi, tu vas créer la première télévision du matin. Ils étaient persuadés qu'il y aurait 10 000 téléspectateurs. Et puis j'ai créé la première télévision, Bonjour la France, Bonjour l'Europe. Et comme on se marrait bien, il y avait tous les mecs suspectés, j'aime beaucoup le mot, hein, suspectés d'être de droite, hein, comme on est suspectés d'être juifs. Et on s'est tous retrouvés avec Jean-Pierre Pernaut, etc. au matin. Et on en a fait un succès. Et Berlusconi, quand il a commencé à faire son marché, il a regardé la télévision du matin, il a dit « Ah, mais il est pas mal ce petit journaliste, comment il s'appelle, Bourré Jean-Claude ?» Et voilà comment tout s'est enchaîné.
D'ailleurs, TF1 a repris, il n'y a pas longtemps, votre titre « Bonjour ».
Oui, ils auraient pu aller jusqu'au bout et reprendre « Bonjour la France », mais enfin...
Jean-Claude Bourré, parce qu'on pourrait rester des heures avec vous. De plus en plus à la télévision, il y a des émissions qui parlent des ovnis et des extraterrestres. Je sais que vous aimez bien ce sujet-là. C'est quelque chose qui vous intéresse toujours?
Ah, c'est quelque chose de beaucoup plus immense que vous n'imaginez. Je suis allé en Israël avec le Bnei Brit, où j'ai rencontré, à ma demande, un rabbin kabbaliste dont j'ai oublié le nom, qui est mort il n'y a pas très longtemps et que vous connaissez peut-être de réputation, parce qu'il avait un surnom de scout, il s'occupait de scoutisme, comment il s'appelait ? Ah, je perds la mémoire des noms, j'ai 82 ans. Ouais. Et je l'ai rencontré à l'hôtel King David à Jérusalem. Mes copains du Bnei Brit attendaient dehors, ils avaient loué une petite pièce. J'avais demandé à le rencontrer parce que je m'intéresse beaucoup, si vous voulez, à l'origine des religions, et notamment à la religion juive. J'ai été confronté tout petit au judaïsme. Moi, je suis catholique d'origine, mais mes parents étaient dans la résistance. Mon père était cheminot, ma mère était postière à Saint-Gervais-les-Bains, et mon père ne fumait pas. Donc il avait des tickets de tabac. Il allait dans les fermes et il disait, voilà, j'ai des tickets de tabac, est-ce que vous auriez de la nourriture à me donner en échange? Il faut savoir qu'à l'époque, on crevait un peu de faim quand même, dans les années 42-43. Et puis il y avait planqué dans une villa, à côté de la villa Richemont, qui est située à l'entrée de Saint-Gervais-les-Bains, pour ceux qui connaissent, juste avant que le chemin de fer à crémaillère ne repasse sur la route venant du Feuillet, il y avait une villa dans laquelle il y avait une famille de juifs, alors un monsieur, une dame, un petit garçon qui avait mon âge avec lequel je jouais, donc il devait être né en 1940 ou 41, un truc comme ça, et je jouais avec lui pratiquement tous les jours, etc. Et mon père me disait, quand il allait donner porter de la nourriture à cette famille juive, il me disait, va voir s'il y a des boches, parce que la route passait venant du Feuillet juste devant notre chalet. Alors j'allais voir, je savais très bien ce que c'était que les boches, je savais très bien que c'était dangereux pour les juifs, je ne sais pas ce que c'était qu'un juif, mais je savais qu'il fallait les protéger. Donc j'allais voir s'il y avait un convoi éventuellement militaire qui montait du Feuillet. Et puis j'allais voir tout fier de ma mission, j'allais voir mon père, je disais, non, il n'y a pas de boches. Alors il allait porter à manger à la famille juive, etc. Puis un soir, le papa de cette famille est venu voir mon père, il a dit merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille, voilà, on a un passeur, on va essayer de passer en Suisse cette nuit, et merci pour tout, et ils ont disparu, on n'a plus des nouvelles, alors on ne sait pas s'ils ont été sauvés ou s'ils ont disparu dans un four crématoire.
Donc vous avez vu un rabbin en Israël?
Oui,
et alors cette discussion
en Israël, et puis ce rabbin en Israël, en tête à tête, évidemment, je lui ai dit où j'en étais dans mon parcours initiatique, et il n'arrêtait pas de me dire, mais vous avez tout compris, nous les juifs, on ne le dit peut-être pas exactement de la même façon, mais c'est exactement ça, etc. Et je devais rester une demi-heure avec lui, et il m'a gardé 2h10, et quand on est sorti devant les copains du Bnei Brit, il a dit, vous savez, Jean-Claude Bourret est un grand initié, ce qui a évidemment flatté mon ego. Et mes copains m'ont dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Il est toujours ponctuel, il devait te garder une demi-heure. D'ailleurs, il y a un hélicoptère de Tzal qu'on avait prévu pour toi pour survoler la première intifada. Et il a été obligé de partir parce qu'il avait d'autres missions. Et j'ai dit, écoutez, je peux pas vous dire parce que vous n'êtes pas initié. Donc ça les a fait marrer. Et voilà comment j'ai eu ce contact privilégié avec ce rabbin.
Jean-Claude Bourret, Bérangère Lanigo, La 5, l'histoire secrète aux éditions Guy Trédadiel. Merci beaucoup, Jean-Claude Bourret. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir pour parler de La 5, cette chaîne qui nous manque énormément. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Merci à tous.
Merci à vous.
Et bonne journée.
Au revoir. Au revoir.